Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette belle soirée d'été durant laquelle nous pouvons plonger nos regards dans les Écritures et méditer, réfléchir, penser, afin de nous parfaire. Merci Seigneur Jésus. Veuille bénir ces moments et permettre que nous puissions aller de l'avant avec intelligence, sagesse. Merci Jésus de venir à notre secours. Amen.
Amen.
Bon, alors je vais faire une lecture, c'est dans Jérémie 31 et au verset 29. En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. » Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Et voilà. Et là, l'alliance nouvelle, ben, elle existe maintenant. Hein. Ce que je viens de vous lire là, c'était dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, et maintenant il y a une alliance nouvelle. Alors, il n'y a pas très longtemps, on n'appelait pas science ce qui concernait les choses de la spiritualité, parce que c'était un terrain qui était considéré, la spiritualité, comme le terrain de l'inculte, de la superstition, du mysticisme, et les gens du monde, eux, s'intéressent qu'aux choses, aux méthodes qui sont définies et aux faits qui sont démontrés. Dans un sens, c'est pas plus mal, parce qu'il y a eu tellement d'abus avec les religieux qui ont créé dans l'esprit des gens un esprit de culpabilité, de crainte, de peur et de malheur. Et ils ont aussi développé beaucoup cet esprit de jugement, de condamnation, et d'auto-condamnation et de condamnation des autres avec ces enseignements faux. Et c'est bien de que maintenant Dieu ait permis que les hommes des gens du monde mettent un grand coup de balai là-dedans. Et puis les chrétiens sages et réfléchis ont aussi participé au rétablissement de ces choses. Le mal, quelque chose de mal arrivait, ben il fallait forcément qu'il y ait un coupable. Je regardais dernièrement une vidéo sur YouTube. Vous tapez cercueil sur Google et vous allez tomber sur une vidéo épouvantable où on voit ce qui se passe dans les villages encore en Afrique. Quelqu'un est mort, jeune, dans des circonstances un peu étranges, alors les hommes qui portent le cercueil entrent en transe, et puis ils tournent à gauche, à droite, et puis ils désignent le coupable et ils le tuent. Et on voit il y a une vidéo comme ça où on le voit. Moi j'en avais entendu parler, mais maintenant on peut voir ça sur YouTube. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, dans nos pays, la superstition l'emportait, et ouais, il fallait un coupable, il fallait toujours un coupable, n'est-ce pas? Maintenant, grâce à Dieu, on sait qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, et c'est pas si simple que ça. L'intelligence, Dieu a rétabli beaucoup de choses. Oh, merci Seigneur. Maintenant, grâce à Dieu, on sait que la pensée, c'est un processus spirituel. La pensée, c'est un problème. Et nous savons aussi que l'imagination, elle précède l'action. Je vous ai prêché ces choses il n'y a pas longtemps. Que l'imagination, elle précède les événements. Et nous pouvons avoir une foi rationnelle. C'est-à-dire, avec une foi rationnelle, on peut faire sortir les choses du monde invisible. Hein. La foi est une ferme assurance qui fait sortir les choses de l'invisible. Une foi rationnelle. La foi, ça sert à ça, mais pas n'importe quelle foi. Pas n'importe quelle foi. Nous avons à cultiver notre foi, à l'alimenter avec des choses concrètes et vraies. Pas avec n'importe quoi. Nous ne sommes pas des rêveurs idiots. Hein. Nos rêves, c'est-à-dire ce que nous désirons, ne deviennent des réalités que si nous observons scrupuleusement les lois qui régissent le monde de l'esprit. Ça ne marche pas tout seul. Le meilleur livre qui révèle les lois de l'esprit, bon, c'est la Sainte Bible. C'est la Sainte Bible. Vous avez plein de bouquins qu'on appelle de pensées positives, ils ont été pompés dans les Saintes Écritures les lois divines, et puis ils les ont mis à leur sauce, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est la Bible qui a, avec cette nouvelle alliance, révélé toutes ces choses merveilleuses. Et ce soir, je vais vous parler des visions et des visionnaires. On doit avoir une foi fondée sur la raison et sur l'expérience. La raison Elle nous vient donc des Écritures qui nous enseignent. C'est un enseignement. Et l'expérience, elle nous permet de voir les limites de notre foi s'élargir. Parce que quand on fait une expérience basée sur les Écritures, ça nous donne plus de foi, et alors on peut élargir, agrandir notre foi. Jésus parle de foi, mais il parle aussi de peu de foi. Hein. Si seulement vous aviez un peu de foi, ne serait-ce que comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, et vous connaissez l'histoire. En général, humblement, un chrétien nouveau, il commence par un peu de foi. Mais ce un peu de foi peut remuer des montagnes. Alors il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont arrivés parce qu'ils remuent des montagnes, et puis ils ont tout faux, ils se cassent le groin, malheureusement, d'une façon dramatique, parce qu'ils pensent qu'ils ont tout compris, parce qu'ils ont manifesté un peu de foi, et puis qu'il leur est arrivé des miracles extraordinaires. Et il faut être sage, hein, il faut apprendre encore. Par exemple, comment m'est venue la foi pour guérir ce paralytique alors que je n'avais que 3 jours de conversion? Comment ça s'est passé? Bien, un, j'ai vu que c'était possible. Vous savez, quand on sait qu'une chose est possible, alors après, ça nous donne du courage pour le faire. J'ai vu que c'était possible parce que Raphaël le faisait chaque soir au nom de Jésus en public devant 500-600 personnes. Deuxièmement, j'ai compris que c'était Jésus qui faisait les miracles et non Raphaël. Donc, Raphaël n'était pas un homme extraordinaire. C'était Jésus qui faisait le miracle au travers de lui. Que Dieu se servait de ceux qui osaient le prendre au mot. Vous voyez? Et prendre Jésus au mot, par exemple au sujet de la guérison, par exemple, hein, eh ben c'est de faire ce qu'il dit de faire, c'est-à-dire d'imposer les mains aux malades. Voilà, c'est pas plus compliqué. Imposer les mains aux malades en son nom. On sait bien que c'est pas nous qui guérissons, c'est Jésus qui le fait. Mais il nous a demandé de faire ça en signe de foi. Alors j'ai compris ça. Et troisièmement, j'ai lu que tous ceux qui croient, hommes, femmes, enfants, tous peuvent le faire. J'ai compris ça en lisant Marc chapitre 16 dans la Bible. Donc, c'était rationnel. Je l'ai fait et cet homme a été guéri et gloire à Dieu. Bon, j'y suis un peu pour quelque chose parce que si je n'avais pas imposé les mains à cet homme, il serait reparti malade. Il fallait qu'il y ait quelqu'un là qui ose le faire. Et tous les chrétiens devraient oser le faire. Maintenant, que signifie rationnel quand j'ai la foi rationnelle? Le mot rationnel, ça signifie fondé sur la raison. Un acte rationnel, c'est un acte posé après une déduction par le raisonnement. Moi, je voulais emmener ce paralytique devant pour que Raphaël prie pour lui. Puis la petite copine qui était avec moi me dit, mais on peut pas le faire. Pourquoi est-ce que tu es croyant? J'ai dit, oui, ben alors pourquoi tu le fais pas toi-même? C'était raisonnable, c'était juste, hein, puisque c'était écrit. Et ça n'a rien d'empirique. Mais ça veut dire quoi, empirique? C'est-à-dire que mon acte n'était pas appuyé sur mon expérience personnelle. Je n'avais jamais fait ça. Je ne l'avais jamais fait. Il fallait un début. Je n'avais jamais imposé les mains sur un malade au nom de Jésus. Et mon geste n'était pas que basé sur l'observation de ce que Raphaël faisait. C'était pas empirique. C'était basé sur Marc 16, parole que j'ai cru être de Dieu parce qu'on m'a toujours dit que la Bible, c'était la parole de Dieu depuis tout petit. Que c'était vrai. À l'époque, quand on passait au tribunal, on mettait la main sur la Bible et on disait « Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. » C'est parce que c'était le livre le plus sérieux du monde. Maintenant, tout le monde s'en fout. Bon, ben voilà. Mais à l'époque, dans ma génération, c'est un livre sacré déjà et j'avais cette conscience. Voilà comment nous devons diriger nos vies, sur l'observation de ceux qui réussissent, mais pas que. Moi, j'ai basé mon observation sur Raphaël qui réussissait, mais pas que là-dessus. Ce que j'ai fait, sans le savoir, c'était ce qu'on appelle de l'induction. C'est-à-dire la généralisation d'une observation et d'un raisonnement à partir de cas étranges, les miracles opérés par Raphaël au nom de Jésus. C'était la généralisation d'une observation et d'un raisonnement à partir de quelque chose. La foi, ce n'est pas simplement un truc nébuleux dont on ne peut pas être sûr. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance, c'est quelque chose de ferme, c'est quelque chose de solide. Ça, c'est solide. Hein? Mais une ferme conviction, une ferme assurance, elle doit avoir une base solide. La foi déclenche des phénomènes, et tout phénomène, c'est quoi? C'est le résultat d'une cause définie et précise, et la cause, c'est une loi immuable qui fonctionne avec une précision invariable, peu importe que la loi soit appliquée consciemment ou inconsciemment. C'est pourquoi Jésus dit qu'il faut qu'on fasse attention avec la foi, parce qu'il en est fait selon notre foi, et si on croit les choses fausses, ben, il nous arrive des choses fausses. Quand je voyais Raphaël monter sur l'estrade, je le voyais sûr de lui. Il n'était pas en train de se ronger les ongles, à se demander, mais pourvu que ça marche ce soir. Il était devant des foules et il affirmait les choses puissamment. Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il sauve, il guérit. Hein? C'était ferme, c'était clair. La même chose pour Osborne. Osborne, vous n'avez pas vu Osborne monter devant des milliers de personnes en tremblant, en se disant, Seigneur, mon Dieu, pourvu que ça marche. Non, 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 il avait une ferme assurance. Est-ce que vous pensez que Jésus craignait un temps soit peu que ça ne marche pas? Pas du tout. Il était sûr de son coup. Le problème avec les sciences, et je suis en train de vous dire que la foi, c'est une science, que les sciences soient physiques ou qu'elles soient spirituelles, c'est qu'elles sont compliquées, elles ne sont pas simples. C'est pas simple. Il faut les étudier. Parce qu'il y a une multitude de paramètres qui entrent généralement en jeu. Pour ce qui est du miraculeux, c'est encore plus complexe que pour autre chose. Très complexe. Alors les frileux, hein, ceux qui sont un peu timorés dans leur foi, ont toujours tendance à penser qu'on est en train de fouler un sol interdit quand on rentre dans ces connaissances-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous ne devrions pas savoir. On ne devrait pas s'en mêler. Il faut laisser ça à Dieu. C'est Dieu qui fait les miracles. Dieu fera ce qu'il voudra. Il ne faut pas trop s'en mêler. Il ne faut pas être trop affirmatif. Alors, cette objection des frileux, elle a été utilisée devant chaque progrès de la connaissance humaine dans tous les domaines, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous ceux qui ont avancé une idée nouvelle ont été soumis au ridicule, ont été soumis, voire même peut-être souvent à la persécution. Alors, j'ai décidé que cette objection, je ne la prenais pas en considération. Je n'écoute pas les frileux. Je n'écoute pas ce qu'ils disent, je m'en fous. Point barre. J'écoute ce que la Bible dit, et puis je fais mes expériences. Alors, nous devons soigneusement envisager chaque fait qui est porté à notre connaissance. On ne doit pas renvoyer ça d'un revers de la main. Non, 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 non. Il faut soigneusement envisager chaque fait qui est porté à notre connaissance. En faisant ça, on établit plus facilement la loi sur laquelle l'événement, la chose repose. Il y a toujours une loi. Quand quelque chose arrive, c'est qu'il y a une loi qui a permis que cette chose arrive. Alors j'ai découvert que nous avons un pouvoir créateur, celui de la pensée. Le pouvoir de la pensée explique toutes les conditions ou expériences possibles, qu'elles soient physiques, mentales, spirituelles. La pensée, elle provoquera des conditions en correspondance avec notre attitude mentale prédominante. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, je le répète encore une fois, ça marche avec des pensées prédominantes. Ça ne marche pas avec les idées qui ne sont pas entretenues et cultivées. C'est pourquoi la Bible nous dit, par exemple, de ne rien craindre. Parce que si nous craignons quelque chose, vous pouvez être sûr, cette chose va vous atteindre. Job 3, 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Ce n'était pas seulement à Job, c'est pour tout le monde. Si vous craignez un truc, et si cette idée vous envahit, eh ben le truc que vous craignez, ça va vous arriver. C'est comme ça. Il y en a qui appellent ça la loi d'attraction. Jésus dit, c'est simplement la foi. Il en est fait selon ta foi. Tu crois que ça va t'arriver? Eh ben ça t'arrive. Jésus n'y est même pour rien du tout. C'est une loi. Vous voyez? La peur, c'est une forme de pensée puissante. Ceux qui ont peur de l'avenir, ou ceux qui ont peur des gens, ceux qui ont peur de moi, par exemple, les pauvres, Je suis le plus gentil du monde. Pourquoi avoir peur de moi ? Eh bien, les gens qui ont peur de l'avenir ou d'une personne, ils obtiendront un désastre comme résultat de leur pensée. C'est normal. C'est une loi. C'est même pas Dieu qui les punit. Non, il n'y a rien. C'est une loi. C'est comme ça. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Et c'est ce que Jésus dit, c'est ce que Jésus nous apprend quand il dit « Il en sera fait selon ta foi ». Si tu crois que l'avenir, ça va encore être pire que ton passé, ben, ça va t'arriver. Si tu crois qu'un tel est méchant, ben, tout ce que tu penses qu'il peut faire de méchant, c'est même pas lui qui va le faire, mais il va t'arriver des choses méchantes, c'est tout. Vous voyez, ça n'est pas simple. La peur, c'est une pensée qui balaye très souvent le résultat de nombreuses années de travail, de consécration et d'effort. Tout d'un coup, quelqu'un a peur et hop, ça y est. C'est terrible. Par exemple, si vous pensez à une certaine forme de richesse matérielle, vous pouvez l'obtenir parce qu'il en sera fait selon votre foi. Mais si vous croyez que l'argent c'est mauvais, si vous croyez que l'argent pourrit tout, si vous croyez que les riches sont tous riches parce qu'ils sont malhonnêtes, parce qu'ils ont volé les gens, c'est certain que la richesse matérielle ne vous parviendra jamais, vous l'aurez jamais. Vous l'aurez pas, elle va vous fuir. Parce que votre croyance, votre pensée prédominante fait fuir la richesse loin de vous. Il en sera fait selon votre foi, selon votre croyance prééminente. C'est comme ça et pas autrement, c'est pas la faute de Dieu. Il a créé des lois pour que tout marche bien. Et si on n'observe pas ces lois, ben tout marche de travers, hein. C'est tout. Alors, le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. Le plus important, c'est le bonheur. Vous avez des gens qui sont pas très riches et puis qui sont très heureux. Puis vous avez des gens très riches qui sont très malheureux. Donc c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Il y contribue quand même, enfin bon. Mais le bonheur, c'est ça qui est important. L'harmonie, c'est pourquoi je vous encourage à avoir des pensées de bonheur, à avoir des pensées d'harmonie, même si vous n'êtes pas dans le bonheur maintenant, même si autour de vous, ce n'est pas l'harmonie. Cultivez des pensées de bonheur et d'harmonie. Remplissez votre pensée avec des idées de bonheur et non pas de malheur. Ne parlez pas que de malheur. Ne parlez pas que de choses malheureuses. Mais au contraire, entretenez-vous de choses positives, joyeuses. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au golf, mais le golf, c'est un sport qui est vraiment très bizarre. C'est une science. Les gens qui jouent au golf, ils ne tapent pas au hasard dans la balle. Vous savez qu'il suffit d'un millimètre pour que la balle elle aille soit dans le trou, soit dans la flotte. Ça dépend tout comment on la tape. Et c'est à force d'exercice, de savoir et d'exercice, qu'on arrive à taper au millimètre près. Mais ça demande des efforts. Le golf, c'est une science. On doit apprendre, on doit faire et refaire les gestes, observer ceux qui réussissent, s'améliorer par son expérience personnelle répétée et répétée et répétée et répétée encore. Souvenez-vous, un millimètre fait toute la différence. Au départ, c'est qu'un millimètre. Mais quand vous lancez loin la balle, le millimètre, il est multiplié. Vous comprenez ? C'est normal. Et c'est la même chose avec tout ce qui concerne la foi. Alors, comment avoir le bonheur ? Difficile d'être heureux quand on est malade, difficile d'être heureux quand on n'a pas d'amis, difficile d'être heureux dans un environnement moche. C'est difficile. Alors, il faut que vous entreteniez vous-même, en vous-même, des pensées afin d'avoir la santé, des amis agréables, un environnement plaisant, d'avoir des ressources suffisantes. Il faut que vous entreteniez ça dans votre pensée, vous réjouir. Voilà, si j'avais ça, je ferais ci, je ferais ça. Et puis, ça vous donne de la joie. Vous pouvez ressentir la joie. Mais est-ce que vous pouvez ressentir la joie quand vous vous tenez courbé ? Non. Il faut aussi que votre physique soit en cohérence avec vos pensées, c'est-à-dire vous vous redressez. Vous allez me dire, mais Michel, mais qu'est-ce que tu es en train de nous raconter ? Mais c'est vrai ce que je vous dis. Regardez les gens tristes, ils ne tiennent pas la même chose que les gens heureux. Tenez-vous comme quelqu'un de triste, ben vous attirez encore plus de tristesse. Tenez-vous comme quelqu'un de joyeux, ben vous allez voir la différence. Vous me dites, c'est pas vrai ? Bon, vous avez raison, c'est pas vrai, je vous raconte des bobards. D'accord, faites comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de suivre ces bonnes lois, parce que j'ai observé ceux qui réussissent, et j'ai essayé de faire, et j'ai vu que ça marche. Alors, c'est non seulement pour prendre soin de vos besoins que vous devez avoir cette richesse, cette santé, tout ça, mais c'est aussi pour pouvoir offrir le confort et le luxe auquel vous avez droit. Beaucoup de gens pensent que parce qu'on est chrétien, on n'a pas le droit. Qu'il faut être un peu dans une espèce de misérabilisme. Non, pourquoi? Qui c'est qui vous a mis des idées comme ça là dans la tête? C'est faux. Écoutez bien ce que Dieu dit. Ah, je suis bien un fils de Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit, je ressemble à mon père. Hein. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ça veut dire quoi? J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent, ils me trouvent. Avec moi, donc si vous me trouvez, avec moi, vous trouvez quoi? La richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Proverbe 8, 17, 18. Vous avez trouvé Dieu? C'est bizarre que vous étiez, que ça ne marche pas dans votre vie. Tout ça. Non, ça se fait. Et parce que vous entretenez des mauvaises pensées au sujet des choses auxquelles vous avez droit. Avec moi sont la richesse, la gloire, les biens durables, la justice. Proverbe 8, 17, 18. Est-ce que vous croyez ça?
Oui.
Oui, moi je crois parce que c'est dans la Bible. Et puis j'ai vu des gens qui le vivent. Quand on a vu avec la Michou la première fois des gens qui vivaient ça, on était pauvres, on n'avait rien, presque rien. Et puis on a progressé parce qu'on a vu, on a cru, on a lu dans la Bible. Et puis voilà, c'est parti, on a mis en pratique. Il dit aussi, Dieu dans Proverbe 24, 4, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Par la science? Quelle science? La science de la foi, la science de la pensée bien entretenue. C'est juste. Remplissez vos pensées de ces paroles qui sont écrites et qui sont absolument dignes de foi. C'est Dieu qui l'a dit. Si c'est Dieu qui l'a dit, c'est vrai. Vous ne pouvez pas dire que c'est une interprétation de Michel Janton. Non, c'est Dieu qui l'a dit. Et vous allez avoir affaire avec Dieu maintenant, si vous ne croyez pas ce que je vous dis. Vous voyez qu'il faut que vous croyez ce que je vous dis, puisque je vous dis les choses de Dieu. Mais aussi, il n'y a pas que ça. Il faut cesser d'être jugeur. Il faut cesser d'être condamnateur. Il faut abandonner le mal. Il n'y a pas que simplement croire. Il n'y a pas que simplement penser. Il y a aussi d'autres conditions. C'est pourquoi je vous disais que c'est une science. C'est compliqué. Il ne suffit pas de croire un texte. Il faut qu'il y ait une cohérence entre vos pensées et vos actions. Comme je vous disais tout à l'heure, même le fait de se tenir d'une certaine manière. Vous allez voir un patron et vous vous tenez comme un clochard, il ne va pas vous engager. Vous allez voir un patron, vous vous habillez nickel et vous vous tenez bien, vous regardez bien dans les yeux. Eh bien, vous inspirez confiance. Vous vous habillez mal comme un clodo, vous vous rasez pas, vous vous tenez mal, vous êtes la même personne à l'intérieur, mais il ne va pas vous engager. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui démontre, il y a un problème. Faites l'expérience, vous verrez. Alors, quelle est la condition impérative de tout bien-être? De tout bien-être, de tout ce qui est bien pour l'être. Alors, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, et pas, il n'y a pas besoin d'être bien compliqué. Là, pour une fois, la condition impérative de tout bien-être, c'est bien faire. C'est bien faire. C'est pourquoi Dieu nous dit de bien faire et de nous détourner du mal. Alors, dans la vie, nous sommes souvent placés devant des choix. Hein, très souvent, ça arrive, hein, tous les jours. Parfois, il nous semble que nous pourrions faire bien de plusieurs manières, ça vous est jamais arrivé? Que choisir? Et puis alors après, vous allez écouter les conseils des uns et des autres. Et on s'aperçoit qu'ils ont souvent, très souvent, des très bonnes idées qu'on n'a pas eues. Mais ça aussi, parfois, ça nous met dans une certaine confusion parce que ça rajoute encore, on se dit, oulala, je ne sais plus quoi faire. Ça vous est jamais arrivé? Alors, on pensait qu'on savait ce qui était bien à faire, mais voilà qu'on se trouve devant une multitude de choses bien à faire, et puis ça nous crée un nouveau problème. Il faut rester quand même simple. Hein. Alors, Quelle est la condition qui précède toute action correcte? La réponse, elle est simple, c'est la pensée correcte. Qu'est-ce qui précède une action correcte? C'est la pensée correcte. Dieu nous a donné le pouvoir de penser. Alors, on peut s'informer auprès des autres, tout ça, ce que vous voulez, mais vous avez le pouvoir de réfléchir et de trier. En réfléchissant, on peut arriver à connaître ce qu'est la pensée correcte, qui nous fera poser une action correcte dans le but de notre bien-être, en réfléchissant. Vous voyez la pensée, la réflexion, hein? Je vous parle de ça depuis le début. Je suis toujours frappé, tout à l'heure avec Stéphane, on parlait de ça, des gens qui disent « je vais réfléchir ». Vous savez pourquoi je suis contrarié, pourquoi je suis embêté et étonné avec ça? Parce qu'il y a des choses dans la vie où on n'a pas besoin de réfléchir avant d'agir. Supposons, tu es au bord d'un précipice, est-ce que tu as besoin de réfléchir ce qu'il faut faire? Ah, je me demande, je vais prier, jeûner pour... Allez. La véritable et bonne solution s'impose d'elle-même, il faut reculer, hein, faut pas rester là au bord. Puis surtout, faut pas faire un pas en avant. Hein, même s'il y a un frère qui vient vous dire « va de l'avant, au nom de Jésus ». Non, faut pas. Donc, dans la vie, il y a des conditions obligatoires pour obtenir ce que nous voulons et nous n'avons pas à y réfléchir. Quand je dis, par exemple, aux gens, je leur prêche l'Évangile, je leur parle, que ça soit devant des foules ou que ça soit en personnel, en tête à tête, et puis que je leur parle du salut en Jésus-Christ, si une personne me dit « je vais y réfléchir », tout de suite, je sais que c'est une personne qui ne veut pas de ce plan. Pourquoi? Je ne peux pas savoir pourquoi, mais je suis en train de voir qu'elle n'en veut pas. Quand une personne connaît la vérité et qu'elle dit « c'est intéressant, je vais y réfléchir », c'est qu'elle a, elle ment, elle a simplement, elle veut se débarrasser de vous en vous donnant une phrase gentille, polie, mais c'est un mensonge. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour le comprendre. Vous voulez qu'elle réfléchisse à partir de quoi, de quelles données? Elle n'a que ce que vous lui avez dit. Si elle trouve ça intéressant, et pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas « bon, ben ok ». Non, oui, elle ne réfléchira jamais. Vous voyez, la condition sous-jacente nécessaire à toute décision ou même à toute relation sociale, c'est de connaître la vérité. Ah, un grand problème. La vérité. Connaître la vérité. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, ça simplifie la vie. Mais comme l'autre disait, mais qu'est-ce que la vérité? Parce que, quoi qu'il arrive suite à notre décision, si nous savons, si quelque chose arrive même de désagréable, si nous savons que ce que nous avons décidé, c'est vrai, c'est juste, eh bien, il n'y a rien qui peut remettre en cause la vérité. La vérité, nous savons d'où elle vient de la parole de Dieu. Quand j'ai lu que les premiers chrétiens y vivent en communauté, j'ai su que c'était l'idée de Dieu pour l'Église au commencement, et je me suis dit, ça, c'est la seule façon de vivre la vie de l'Église, il n'y en a pas d'autre, c'est ce que la Bible dit, c'était de vivre en communauté, point barre. Il n'y a pas besoin de réfléchir 150 ans, c'est écrit. C'est la vérité. Alors, quoi qu'il arrive dans la communauté, moi, de toute façon, ça m'est égal. Ça ne remet pas en cause la vérité. Vous voyez? Lorsque nous mettons en pratique, peu importe les conséquences, quand on met en pratique la vérité, nous sommes dans la paix du cœur, dans la tranquillité. Nous sommes, mes frères et sœurs, le seul peuple au monde à avoir cette certitude, cet absolu. La parole de Dieu est la vérité. Quand je dis nous sommes le seul peuple au monde, je ne dis pas seulement nous ici, hein, il y en a des millions qui croient comme nous. C'est elle, la parole de Dieu, qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, sans être prophète, nous pouvons prédire le résultat de tous les actes posés sur le bon fondement de la parole de Dieu. Par contre, c'est plus difficile de prédire ce qui arrivera à ceux qui posent des actes sur de mauvais fondements. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu fausse tout par son pardon et sa miséricorde. Eh oui, il est miséricordieux. Quelqu'un va faire une erreur, il ne va pas le punir selon son péché, il ne va pas le punir selon son erreur. cette personne peut se repentir, et même si elle ne se repent pas, Dieu fait grâce, il est bon. Donc on ne peut pas prédire ce qui va arriver à ceux qui posent des actes sur un mauvais fondement. Mais à la limite, on s'en fiche. Ça ne nous regarde pas ce qui va leur arriver. S'ils veulent poser quelque chose sur un fondement qui est faux, ça ne nous regarde pas ce qui va leur arriver. Quand un enfant de Dieu fait un choix basé sur les Écritures, c'est-à-dire que son choix est dicté par l'amour et l'humilité, Dieu le bénit. Ça, c'est sûr. Avec la Michou, on a toujours posé nos actes avec ce genre de choix, l'amour et l'humilité. Par exemple, c'est le choix qu'on a fait quand nous avons décidé de laisser notre place au château à ceux qui avaient une vision qui ne nous convenait pas. C'était de l'amour et de l'humilité. C'était de l'amour pour eux. Et c'était un choix humble parce que nous renoncions à beaucoup de choses que nous avons construites. Et Dieu a béni notre choix. Amen. Dieu a béni notre choix. Je vous ai toujours enseigné ces choses. Ce qui est bien, c'est-à-dire ce qui est la volonté de Dieu. Un, ça glorifie Dieu. Deux, ça fait du bien aux autres. Trois, ça vous donne une satisfaction personnelle. S'il manque un de ces trois points, c'est pas bon. Si leur vision venait de Dieu, notre départ glorifie Dieu, puisqu'on n'en veut pas de cette vision, puisqu'on ne veut pas de ce truc-là. Si leur vision vient de Dieu, ça leur fait du bien, puisque nous, on s'en va parce qu'on n'aime pas cette vision, donc ils sont libres de faire au château ce que Dieu leur a montré de faire au château. Donc c'est pour leur bien. Oui ou non? Et troisièmement, cela nous donne une satisfaction personnelle parce que on n'est pas attaché à ce château. Et que nous préférons vivre la vision que Dieu nous a donnée en 77 plutôt que la leur. Et on est content de faire notre choix. Et ça nous donne une satisfaction. Est-ce que vous voyez? Donc on est dans la bénédiction. L'approbation de Dieu vient toujours sur ceux qui posent des actes bien selon les Écritures, c'est-à-dire avec amour et humilité. Alors, bon, notre amour et notre humilité, ils n'y croient pas. Mais on s'en fout, nous, on sait qui on est, on sait ce qu'on fait. C'est ça qui est important. On s'en fout de ce que les gens pensent. On s'en fout de ce que les gens pensent. Voilà pourquoi nous sommes tellement bénis. Et voilà pourquoi nous allons de gloire en gloire, nous sommes bénis. Mais c'est presque gênant comme on est bénis. Amen. Alléluia. Ce que beaucoup ignorent, c'est comment apprendre à connaître la vérité. C'est ça que beaucoup ignorent. Comment apprendre ce qui est juste? Comment apprendre ce qui est vrai? Comment apprendre ce qui est honorable? La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est pas une doctrine. La vérité, c'est même pas des versets bibliques. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est la vie. Jésus a dit « Je suis la vie ». Il a dit « Je suis la vérité ». Alors, autant que, par exemple, autant que les mensonges et que l'erreur sont la mort. La vérité, c'est Jésus, c'est la vie. Jésus est la vérité. On connaît Jésus, on connaît la vérité. Pourquoi? Par la réalisation simple d'un fait. La vérité est le principe vital de l'univers qu'il a créé. La vérité, elle est omniprésente. Elle est spirituelle. Il suffit d'appliquer la vérité à notre vécu. Ou si vous voulez, je peux le dire plus bibliquement, il suffit de vivre en Jésus-Christ. Vous voyez, mes frères et sœurs, on vit en lui quand on ne condamne pas, on vit en lui quand on ne juge pas charnellement, sans avoir tous les tenants et tous les aboutissants. Là, on est en lui. Alors, bien sûr qu'un chrétien juge. 1 Corinthiens 2,15, la Bible dit, hein, le chrétien, l'homme spirituel, il juge de tout. Mais il juge comment? Selon la vérité, c'est-à-dire à la façon de Jésus, spirituellement. Vous voyez? Prenons un exemple. On est dans la nouvelle alliance, vous êtes d'accord? Tout à l'heure, on a pris un verset qui parlait de l'ancienne alliance, et puis il dit, maintenant, je vais faire une nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, les pères, ils mangeaient des raisins pas mûrs, et c'est leurs enfants qui avaient les dents agacées. Hein, ça, c'est dans Jérémie 31, 29, 33, ce qu'on vient de lire au début. C'est une phrase parabole. Ça n'a rien à voir avec les raisins. Ça a à voir avec l'autorité. Si les parents, c'est l'autorité. C'est pour dire que le mal fait par un papa ou par une personne d'autorité, eh bien, si ce mal est fait par un papa ou par une personne d'autorité, eh bien, dans l'Ancienne Alliance, c'est toute la famille qui allait en pâtir ou tout le pays qui allait en pâtir. Ça, c'est ce qu'on trouve dans la Bible. On voit que le peuple entier payait pour les bêtises du roi. Parce que le roi, c'était l'autorité. On a beaucoup d'exemples comme ça dans l'Ancien Testament, mais pas dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, le principe, il est aboli. C'est fini, ce truc-là, des raisins. C'est fini. C'est ceux qui font le mal qui sont atteints par le mal. À moins que Dieu fasse miséricorde. Vous voyez, ça ne marche pas toujours. Dieu fait miséricorde, il abat la loi avec sa miséricorde. Normalement, il devrait punir, mais il ne punit pas selon nos péchés parce qu'il fait miséricorde. Donc on ne peut pas prédire, oui, tu as fait ça, donc il va t'arriver ça. Pour le bien, ça marche, mais pas pour le mal. Il faut bien se mettre ça dans la tête et dans le cœur. Alors, si le diable vient te dire que ton fils est malade parce que tu as péché, tu peux pas le croire. Tu vas l'envoyer se faire paître, le diable. C'est pas possible. Parce que tu connais la vérité de la Nouvelle Alliance. Et tu tiens donc pas compte de ces sornettes d'accusation. Tu vois? Le diable peut venir en personne te dire un truc. C'est tellement énorme, c'est tellement faux. C'est tellement dans l'Ancienne Alliance. Ça n'a rien à voir avec la Nouvelle Alliance. Si vous lisez 1 Corinthiens 11, 29... Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que celui qui prend la Sainte Cène indignement attire sur lui-même un jugement. C'est celui qui prend la Sainte Cène indignement. Il attire sur lui. Personne ne va tomber malade parce que Olivier, tu prends la Sainte Cène indignement, puis d'autres vont être malades. Ou moi, parce que je suis une autorité dans l'Église, je prends indignement, alors d'autres vont être malades. C'est faux! Parce que l'histoire des raisins verts, c'était dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, c'est différent. C'est celui qui pêche qui est puni. Et pas toujours, parce que Dieu fait miséricorde. Amen. Vous voyez que c'est pas simple, vous voyez que c'est compliqué. Il faut étudier un petit peu. Personne ne va tomber malade ou ne va mourir si tu prends indignement la Sainte Cène. Par contre, toi, tu vas avoir des problèmes si tu prends indignement la Sainte Cène. À moins que tu te repentes et que Dieu te fasse miséricorde. Voilà. Toujours la même histoire. Toujours la même histoire. Gloire à Dieu. Vous voyez, pourquoi je dis tout ça? Parce que la question au départ, c'était comment apprendre à connaître la vérité? Comment apprendre à connaître la vérité? On apprend à connaître la vérité par la connaissance des Écritures. Voilà la réponse. Par exemple, un de mes amis m'a envoyé une pub pour un livre chrétien qui est vendu en librairie chrétienne. Vous allez là-bas, il y a une librairie chrétienne, ces livres-là sont en vente. Et ces bouquins-là, c'est rempli de visions au sujet de l'enfer. C'est des gens qui ont visité l'enfer, et ces personnes disent avoir vu Michael Jackson en enfer, ils ont vu Lady Di aussi, ainsi que Kadhafi. Eh bien, moi, quand j'entends une chose pareille, je juge. C'est mon droit. Je juge. Comment ? Je juge spirituellement ces visions. Et le verdict tombe. C'est une fausse vision. Soit ils n'ont jamais été en enfer et nous racontent des bobards, soit ils ont fumé la moquette, ou je ne sais pas ce qui est arrivé, ou alors ils nous mentent, ils ont écrit un bouquin pour se faire du pognon, ou je ne sais pas, il y a une raison, mais ce n'est pas vrai, ils n'ont pas vu Michael Jackson en enfer. Comment est-ce que je sais ça? Pourquoi est-ce que je peux être sûr qu'ils n'ont jamais vu Michael Jackson en enfer? Par la vérité. Matthieu 25, 41. Dieu dit aux humains qui sont méchants, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Quand est-ce qu'il dit ça? Il ne l'a pas encore dit. Il le dira le jour du jugement dernier au grand trône blanc. Matthieu 25, 31, « Toutes les nations sont assemblées devant lui, et il sépare les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Nous trouvons ça écrit dans Apocalypse 20, 11, 15 également. Donc, la vérité, c'est qu'actuellement, l'enfer, il est vide. Mais vide. Il n'y a personne dedans. les deux premières personnes qui vont être jetées en enfer, c'est la bête et le faux prophète. Apocalypse 19, 20. La troisième personne qui sera jetée dans l'enfer, c'est le diable en personne. Apocalypse 20, 10. Et ensuite, Apocalypse 20, 15, tous les fils du diable qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie parce qu'ils n'appartiennent pas à Dieu, parce qu'ils sont délivrés. C'est tout. Mais pour le moment, ils n'y sont pas. Michael Jackson n'est pas en enfer. Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Je ne suis pas juge de ça. Vous voyez? C'est tout. Mais il n'est pas en enfer. Ça, je peux juger qu'il n'est pas en enfer. Pourquoi? Parce que je connais la vérité. Et la vérité, ce n'est pas la vision de ces pentecôtistes déséquilibrés qui viennent nous raconter des bobards. Moi, ces pubs, avec la Michon, on les a brûlés au nom de Jésus. On ne veut pas cette saloperie chez nous. C'est faux, archi-faux. Ne vous laissez pas empoisonner par des idées comme ça. Voilà. Donc, je juge, j'en ai le droit, je juge ces visions. Elles sont erronées, elles sont fausses. Et je dis que si la famille de Michael Jackson et la famille de Lady Di portent plainte contre, pour harcèlement moral contre les auteurs de ces bouquins, les auteurs vont perdre leur procès. Parce que tout le monde connaît, les gens sensés connaissent les Écritures. La vérité est dans la Bible. Et un avocat qui va bien faire son travail va dire « C'est un mensonge erroné, c'est quelque chose de faux, et voilà, les Écritures disent ça et ça et ça et ça, donc vous avez menti et vous avez fait du mal à la famille de Michael Jackson en disant que leur père ou leur cousin ou leur oncle ou leur tante ou leur fils est en enfer, alors que c'est faux, vous êtes des méchants, vous méritez la prison ou je ne sais pas, une punition. » La même chose pour Lady Di, la même chose pour Kadhafi. On n'a pas le droit de dire des choses comme ça qui sont fausses. La loi humaine va même aller contre ces gens-là. Ils mériteraient bien, tiens, que ces familles-là se soulèvent. Il n'y a personne en enfer actuellement. Là, c'est dit maintenant. Vous voyez, la Bible est claire. Quand on la connaît, on connaît la vérité. Et si on applique la vérité à nos actes, on ne peut être que béni. Sinon, même la loi des hommes peut venir contre nous. Or, il n'y a aucune vérité de la Nouvelle Alliance qui est contraire à la loi des hommes, au moins, en tout cas, dans nos pays chrétiens. Hein? Mais si vous voulez vivre dans l'ancienne alliance, c'est la charia. Hein? Ah, excusez-moi, mais c'est la charia. Alors vous allez vous mettre à lapider les adultères, hein? Surtout les femmes adultères, parce que les hommes adultères, encore, hein, on les chope pas facilement, mais les bonnes femmes adultères, là, vous allez les lapider, comme ça se faisait du temps de Jésus, là, et des autres. Vous allez lapider les homosexuels aussi. Vous allez couper la tête des blasphémateurs, vous allez prendre des revolvers, des fusils, des kalachnikovs et vous allez rentrer à Charlie Hebdo. Hein? Voilà. Et puis alors vous allez avoir des sérieux problèmes avec les autorités françaises et ce sera bien fait pour vous. Il ne faut pas mélanger l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance. Il faut connaître la vérité. Vous voyez, Jésus a changé les choses. Alors, il y a des avantages énormes à connaître la vérité. Et il y a des avantages énormes à l'appliquer, la vérité. Et quand vous êtes devant un choix, veillez à ce qu'il y ait toujours dans votre choix l'amour et l'humilité dans ce que vous allez choisir. Même si ça vous coûte cher. Là, ça nous coûte cher, à la Michou et moi, de partir d'ici. J'adore cet endroit. On s'est battu pour l'avoir, on s'est battu pour le garder. Et là, à cause d'une prophétie bidon, et de l'entêtement de certains, on va être obligé de partir. C'est eux qui devraient partir. Mais non, ils restent accrochés comme des morpions. Eh bien, nous partons, mais par amour et par humilité. Et puis, de toute façon, Dieu nous donne... ça va être beaucoup mieux. Bon, alors voilà, ça c'est une autre chose. C'est parce que Dieu nous bénit. Amen. Alors, la vérité, elle est toujours disponible. Elle est toujours disponible. Mais pour la reconnaître, il faut d'abord être né du Saint-Esprit. Ensuite, il faut reconnaître l'omnipotence du pouvoir spirituel et avoir le désir de devenir les destinataires des effets bénéfiques de la vérité mise en pratique. Eh oui. Vous voyez, pas simple. Alors voilà pourquoi j'ose vous dire que la pensée signifie la vie. Parce que ceux qui ne pensent pas ne vivent pas dans le sens élevé du terme. La pensée, elle fait l'homme. Potter, j'aime beaucoup mon chien. Mais il n'a pas inventé la poudre à couper le beurre. Hein. Mais c'est un chien. Voilà. Nous sommes des gens, des êtres humains. Nous avons la pensée. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Il faut se servir de sa pensée. Il faut la cultiver. La pensée fait l'homme. Soyez reconnaissants à Dieu de ce qu'il est miséricordieux et qu'il pardonne toujours les pensées erronées qui produisent des conséquences désastreuses. Il pardonne. Il est encore temps pour chacun de se repentir et d'opter pour les pensées vraies. Amen. Jésus, merci de nous aider à pratiquer ces choses et que ceux qui doivent les pratiquer les pratiquent, que ceux qui ne veulent pas les pratiquer ne les pratiquent pas, que celui qui veut se sanctifier se sanctifie, que celui qui veut se souiller qu'il se souille. Ça ne nous regarde pas. Nous savons qu'une chose, c'est que nous voulons faire ta volonté et que tu vas nous y aider. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Bonne fin de soirée. Amen. Merci.